je suis là. Ne croyez pas, vous êtes dans l'histoire du monde. On a rendez-vous à la fin, mais je suis là. Alors vous savez, tu es là, il n'y a pas de problème. Si tu es là, l'arracher les jugements. Et nous serons des fils bien, des fils stabilisés, des fils élèves. Bien. Mais la relation fils est irréversible. La relation famille peut être atteinte, mais seuls les fils peuvent être cet individu. C'est la raison pour laquelle il y a la nécessité de la justice. Enfin, c'est un autre problème. Seul le fils peut se retenir. Et là, si vous voulez, cette conviction absolue que l'alliance entre Dieu et Israël est irréversible et inconditionnelle, que aucun homme, femme, dans le monde d'Israël, à travers les siècles, n'a jamais compris. Je n'ai compris cela. Et que, malheureusement, souvent, l'Élysée, donc, eux aussi arrivent à ne pas comprendre. Bien. Alors, tu as une question ?
Une question, pour bien comprendre l'esprit de Hanouka, c'est une commémoration d'un événement extrêmement violent. Donc, en tant que juif, nous devons quand même insérer dans une perspective de paix. Il me semble qu'à partir de tout ce que tu as dit, j'essaye de comprendre le motif de guerre renouvelé et le motif de paix possible. Comme, en tout cas, au départ, il y a un malentendu. À partir de ce que vous avez dit, monsieur, en ce qui concerne le déterminisme dans la pensée grecque et l'absence de déterminisme dans la pensée juive.
C'est justement que...
On veut le déterminisme. Donc, il me semble que ça parle... Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris. En tout cas, il me semble qu'à partir des quatre exemples que vous avez pris chez le Maharal, les Grecs pourraient parfaitement comprendre la notion de déterminisme. Puisque si on met les maisons d'or, on aura une grande maison. Si on annule les nombreux de Hanouka, on aura des enfants qui sont annulés par Hanouka. C'est quelque chose qui est aussi de l'ordre du déterminisme. Deuxième élément, il me semble qu'il y a quelque chose qui reste aussi de l'ordre de la guerre irréductible entre les deux identités, pour parler comme Léon Ashkenazi. C'est ce que vous avez dit à propos de la création. Il me semble que c'est là le point central. Reprenons par exemple l'exemple, et c'est à mon avis même pas un débat entre Israël et la Grèce, c'est tout profondément un débat entre la Grèce et l'Égypte, entre Israël et l'Égypte à travers la Grèce. Prenons l'exemple d'Alexandre. Alexandre le Grand, qui avait comme précepteur Aristote. Donc, quelqu'un qui était aussi dans l'ordre de la connaissance. Son premier geste lorsqu'il est descendu dans l'Égypte, c'est d'autant de même plus que faire sa croix roi païen. Et je crois que là, entre les Juifs et les Grecs, il y a encore quelque chose qui est irréductible. Il faut voir comment ça se transmet dans le monde politique contemporain. Troisième élément, il me semble que peut-être le Juif devrait faire un pas vers les Grecs, en le mesurant très intelligemment. C'est qu'à propos de la relation perfide, c'est que pour les Grecs, la relation perfide, c'est une relation qui est extrêmement dangereuse. Le père, c'est celui qui tue le fils dans la tradition. Et peut-être que cet après-midi, Ashkenazi va en parler à propos du mythe. Le père, c'est celui qui tue le fils. Et il me semble que le juif devrait essayer de faire comprendre en quoi la relation perfide peut être une relation d'amour. Il faut une transformation anthropologique très profonde, et même une transformation psychologique.
Exactement, et ce n'est possible, si je peux répondre à l'autre moment-là.
J'ai fini, hein.
Mais ce n'est possible quand le verbe devient lui. Parce que c'est ça, devenir lui. Et d'ailleurs, justement, mademoiselle a posé la question à elle, la relation entre Akhenaton et Pâques et lui.
Non,
la psyché.
C'est plus grave que ça, je crois.
Bon, mais c'est là que nous avons les exemples.
C'est le premier père qui se, dans la mythologie grecque, qui se vautre sur la création qui l'empêche d'émerger.
Par exemple, dans le mythe de Chronos.
Oui, qui se vautre sur sa création.
Qui l'empêche d'émerger. Bon, alors, c'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, nous avons peu de temps, et c'est pourquoi on se télescope. Et puis, on n'est pas toujours tous là à toutes les études. C'est ça qui est un peu difficile, mais ça fait bien. Il vaut mieux un jour de l'époque. C'est ça. C'est que. Au-delà du raisonnement, de l'intelligence,
de la rationalisation, il y a une âme. Ce que j'appelle âme aussi, je vais répondre des heures pour reposer mon vocabulaire avec celui des psychologues, psychiatres, anthropologues, psychologues contemporains, mais qui ont âme de façon très générale. Et il y a une
manière d'être homme, je veux dire, dans mon vocabulaire, une manière d'être homme, nous sommes des Hébreux. Et les Hébreux ont précisément en propre cette relation au Père qui est céleste, comme on dit en France, qui est en ordre.
Que dans l'existence, dans la vie de Dieu, un père juif ne peut pas être candidat à une guerre en grec, qu'un père juif, une mère juive ne peut pas devenir père autoritaire, maître Sicile, etc. Ça se soit. Mais l'identité profonde, non, c'est vrai, ça se soit. Mais l'identité profonde de l'hébreu, c'est revenir dans cette catégorie, le premier hébreu s'appelle Abraham. Une des plus belles prières juives, c'est Abraham. Et dans l'islam, il y a le pressentiment de ça. Parce que l'islam formule la catégorie, la tribu du Rahman, Rahman al-Rahim, et nous entendons la relation grecque. Alors qu'effectivement, la relation fils-père, comme tu l'as dit très excellemment, elle est obscurcie, enfin, elle est noire dans la secret grecque. Alors, moi, je le comprends très simplement comme ça. C'est que c'est ça la conversion profonde à l'identité humaine, originelle, qui en fin de compte dans l'histoire émergée comme grecque. La généalogie, oui. Je dis que ne commence pas à avoir commencé à dire la même chose. Okay. C'est le fait de mettre en œuvre cette relation créateur, et ça veut dire que le grec guéri de ce complexe devient gris. Là, ça a été bloqué par le Christ. Et vous savez que le christianisme, dans son mythe de le père et du fils, a refait faire le même meurtre au père contre le fils étant Israël, pour prendre toutes les précautions de Israël. Okay. Et vous voyez à peu près la même chose, on y reviendra cet après-midi. Alors c'est quoi, je te réponds un petit peu comme rabbin, cette fois. Ma conviction est que il n'y a pas de paix possible sur ce point-là. Parce que c'est la morale qui est en jeu. Enfin, c'est la conception de la morale qui est en jeu, et donc de la politique, et donc de l'histoire. Et qu'il y avait une seule issue.
C'est que le grec soit grec au niveau de sa nationalité, lorsqu'il fait les mathématiques. Et c'est son travail légitime, qui revient à toutes les analyses précédentes, mais que dès qu'il parle des choses du sujet, des problèmes du sujet, de la personne, de l'âme, il ne peut être que sinon c'est la catastrophe. Voilà pourquoi dans ta première question, je vais vous répondre. Ta première question, je n'ai pas bien compris. Si tu voulais dire la paix entre les Juifs et les Grecs, ou aujourd'hui en Israël, la paix avec...
Il me semble que le problème, ce n'est pas tellement un problème de philosophie, le problème de la politique. À partir des exemples pris par le Sophocle, il faut se reprendre. La notion de déterminisme, de causalité, elle peut être intégrée par les deux cultures. Il me semble que si vous voulez.
Ça dépend dans quel domaine.
Voilà, ça dépend. Alors si vous voulez, il y a un élément que j'appelle réformatique, mais un élément pervers. Et l'élément réformatique, c'est que pour les Grecs, la relation perfide est une relation dangereuse. L'élément pervers, c'est que le Grec est tenté, à un moment donné, de récuser ce Dieu. Ce Dieu qui est en terreur, parce qu'il veut être Dieu lui-même. Et c'est le cas tout à fait précis d'Alexandre, qui avait à côté d'une incarnation de la raison, qui rejette cette incarnation de la raison justement en Égypte, pour se sacrer lui-même Dieu, s'identifier au Dieu égyptien. Ça, c'est vraiment pervers.
Lorsqu'Alexandre a rencontré Shimon HaTzadik, il a dit bénis le Dieu de Shimon HaTzadik. Il n'a pas parlé du Dieu grec.
Ça va pas, il fera pas très ça.
Eh bien, c'est ça. Et alors là, je crois qu'il y a eu un écran qui a posé tout cela.
Depuis l'apparition du christianisme, il n'y a pas de relation saine entre les deux peuples. Parce qu'il y a eu cet écran de ni juif ni grec, ni homme ni femme, en fait, tous les symboles, et qui a mythifié l'identité grecque. Le symbole, c'est la famille, je vais vous dire en détail. Ce déterminisme est compris dans un monde créé. Et ça, les Grecs ne le comprennent pas. On sait que dans la première phrase, l'article de M. Lorrain, que vous connaissez comme référence, vient de reparaître au numéro 2 de Dagen, du de l'hellénisme, M. Lorrain commence par une phrase tout simple. La pensée grecque reste étrangère à l'idée d'une création absolue du monde, à partir du néant, et l'idée de la providence divine concernant l'homme. L'idée est compris. Avec cette phrase, je crois que j'ai répondu à votre question en ce sens que
lorsque la pensée finie,
c'est à l'intérieur d'un monde qu'on peut nous créer par un opérateur qui n'est pas le paradoxe.
La perversité, tu vas avoir la parole, la perversité grecque est encore une autre dimension et l'autre. Tu te rappelles certainement, lorsque les premiers grecs ont rencontré cette affirmation juive hébraïque, il y a un créateur, il y a une providence, ils ont dit les juifs sont fous. La folie juive. Parce que par rapport à la raison, c'est une. Mais c'est clair, mais n'oublions pas que nous nous trouvons dans un temps d'histoire où la révélation a cessé pas. Et c'est pourquoi nous nous laissons.
Justement, je pourrais ajouter à ce débat, rapprocher avec un essayer sur ce sujet, parce que moi j'étais très sensible à votre intervention à deux points. Vous introduisez dans le débat les Kelta et l'Égypte, et d'autre part, vous avez à risquer cette relation des Kelta qui ne peut pas s'articuler.
Il me semble que c'est le syndrome de Prague, donc ils vont
peut-être
uniquement
c'est le
syndrome de Prague. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça et vous avez donné une réponse très importante, très rapide malheureusement. Et je vais redire la question, c'est quelqu'un que vous avez posé une question à ce moment-là, qui avait certainement de votre formation. Et à cette question qui vous avait posée, vous aviez répondu, mais il me semble que cette réponse pour tout à fait aller dans le débat. Alors la question que vous avez posée, la suivante, c'était que la personne avait observé qu'il y avait une différence entre la position de Joseph en Égypte. Quand il avait la femme de Potiphar en face de lui, c'était très dangereux pour elle. Alors que quand il avait deux parents en face de lui, c'était une relation réussie. Et vous aviez répondu à ça, quelque chose d'important qui paraît tout à fait répondre à ce que vous dites là.
Et c'était quoi?
Je me souviens.
J'avoue que moi, non.
Le risque, puisqu'on s'est maintenu, c'est que lorsque la civilisation égyptienne demande à Joseph de venir pour rendre la civilisation des stériles, pour féconder cette civilisation, à ce moment-là, il y a un risque.
Je ne me réponds pas, je me rappelle pas, mais je vais essayer de répondre quand même.
Bon, ben, je vais quand même vous donner une réponse. Je sais que vous avez tellement rapidement vous aviez donné une sorte de vision d'agamite qui se masculin et féminin. Et vous avez dit que quand c'est Joseph en face de l'agamite au féminin, ça ne marche pas. Alors que quand c'est Joseph en face de l'agamite au masculin,
c'est exact.
Voilà,
c'est
qui dans
le sens. C'est-à-dire que si la relation à l'agamite nous atteint dans notre identité, par filiation, les enfants de Joseph seraient les enfants de la femme de Potiphar. Alors là, c'est dangereux, effectivement. Et, tandis que si c'est la relation inverse, et il est bien évident que Israël a un message à porter en tant que Joseph, en se mettant au service de la civilisation du temps pour la sanctification. Cela, le pharaon l'a compris, il a dit, il y a un seul premier ministre qui va nous sauver, c'est Joseph. Parce qu'il est hébreu. Dans tout ce récit, il entend parler de Joseph comme Nahar Ivri, un enfant hébreu. Joseph n'a pas réussi, mais c'est sa tentative. C'est ça. Bon. Bien oui, voilà. Alors, nous prenons donc la page, on va faire cette référence en appuyant sur la page 23 aussi, et puis vous gardez la réalité de la nous allons voir le fait que les Rachonaïm ont insisté que cette commémoration se ferait à travers la menorah et pendant le temps. Alors c'est Shabbat, Kafaleuf et Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et le mot de Hanouka en hébreu signifie inauguration, ré-inauguration. C'est un autre rabbin, c'est qu'on est dans le Mais Kafaleuf qui se lève, le 25 jours du mois de Kislev, Yomé de Hanouka, Minya, les jours de Hanouka sont venus. Et l'autre mystère de héros, on n'a pas le droit de prendre le deuil, c'est plus précis que prendre le deuil, c'est faire un complément funèbre de deuil. Mais dès lors, on n'a pas le droit de jeûner, c'est-à-dire ce sont des jours de fête où on interdit un comportement de deuil. Et chez Nirnesu, voilà l'histoire, et chez Nirnesu, il y a Vanim Laïchal, lorsque les Grecs ont pénétré jusque dans le sanctuaire. Le sanctuaire, vous avez notre page. Eh bien oui, ça c'est un truc que Michel a préparé pour que vous voyez. Le Yachal, vous allez prendre là. Et ici le grand schéma. Le Yachal se trouve là et est reproduit en grand ici. Lorsque les Grecs ont pénétré dans le Yachal, dans le sanctuaire qui se trouve à l'intérieur du temple, les coups du temple, ils ont rendu un but toutes les nuits. Alors je vous mets ce mot au tableau. Là. Je vais pas, vous avez l'air. Je prenais ce mon tableau parce que nous avons mon cerveau tout à l'heure.
Vous comprenez?
Oui, bien sûr. semaine, c'est lui, et au courrier avec Marie. Et il y a dans le lettre,
dans le sentier, il y avait un autre.
Chegant à Malchut Betrach Monaï, et lorsque le gouvernement, Malchut ici ça veut dire littéralement, premièrement Malchut souveraineté, deuxièmement un empire, et troisièmement l'institution qui est véhicule de cette souveraineté, c'est donc le gouvernement. On doit dire que ce n'est pas la dynastie, le régime, ce que vous voulez, mais c'est Malchut, le fait qu'il y ait souveraineté politique. Dieu de la maison de Betrach Monaï, je vous mets le mot au tableau, Betrach Monaï. Les ressemblances commencent à apparaître. Les Tzachoum, et ils les ont vaincus aux Grecs, Batkou. Ils ont pris une Bédika. Bédika, ça veut dire vérification. Ils ont vérifié Batkou. Benon Matsoum, la part est rare. Et ils n'ont trouvé qu'une fiole. Et par, c'est une petite fiole. C'est le mot par, qui est la combattante de Nébique, bon, peu importe, mais qui est l'inverse de cas. Bon, je ne sais pas si on va arriver tout là, mais je vous mets les données. Par Echad Shel Shemen, une petite fiole d'huile, Shaya Mounach, Bechotamon Shel Kohen Gadol, qui était Mounach, déposé, un peu dans le sens de, ils l'ont oublié, ils ne l'ont pas trouvé. Mounach, mes habits, Mounach, c'est dans le coin, comme ça, mais avec le sceau du Kohen Gadol. Ça veut dire que la plus grande sainteté, la plus grande authentification de sainteté. Mais là, il y a beau, et là, il y a dit qu'il y en a. Or, il y avait, j'interprète un peu, pour rendre la chose peut-être un peu plus claire, il y avait un point de vue naturel. Si nous étions soumis aux lois du déterminisme qui fonctionne comme elle fonctionne, il y avait en fait possibilité de pouvoir venir un peu. Dans un sens, bon, est-ce. En ça, il y a eu un miracle. Les découvriers sont là. Et ils ont allumé de cette île pendant 8 jours. Jusqu'à un point. Mais je suis là. Et c'est Shana Acheret. Mais Shana Acheret, l'année d'après, Kabroum et Hassaoum, ils les ont fixés dans le calendrier. C'est 8 jours où ils sont arrivés. Et Hassaoum, Yamin Tovim, Behalel, Verola. Et ils ont institué comme fête, Yamin Yomto, comme fête, Behalel, de louange, Verola, et de remerciement, reconnaissance. Ça, nous avons étudié hier sur le. Alors là, c'est un moyen de le faire nous avons. Je peux avoir que comme méthode de vous analyser en survol l'explication du Maharal, mais cependant, je veux quand même que nous lisions ensemble, que nous lisions ensemble la citation que vous avez à la page Gabriel. On verra sur la page. Là, je vais signaler le début du deuxième paragraphe de la première colonne. Voici quel est le point de l'enseignement du Maharal. Le Maharal va nous établir que tout rite qui est fixé sous le nombre 7, et donc à tout temps 7 jours, se réfère à la relation à Dieu à travers le nord de la vie, à travers le déterminé. J'ai rien dit. Mais dès que nous avons affaire à un rite qui va jusqu'au 8e jour, c'est qu'il y a là une relation à quelque chose qui transcende le déterminisme et la nature, et je reviendrai sur ce symbolisme des 6 jours, 7 jours et le 8e, qui est un symbolisme messianique, puisque la conclusion du Maharal n'est pas donnée que c'est pas l'héritation de Machia. Voilà ce qui est écrit dans Vaikra Rabba, Tatalot, et voilà comment le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le sein des saints. La partie supérieure dans le Echaz que vous avez dans votre schéma, dans le collège de Kodesh. Les autres, dit le verset, les autres, Yavo, Aaron, la collège. Voilà avec quoi Aaron, le grand prêtre, rentre dans l'endroit de sainteté. Et il n'y a pas ici de l'endroit de sainteté et la collège, dans la chose sainteté. Dans le niveau sainteté. Qu'est-ce que ces autres? Le verset se trouve dans Vaikra 16, 3, les autres, Yavo, Aaron et la Kodesh. Les autres, avec cela, il s'agit dans le contexte de Vaikra, du sacrifice avec lequel Aaron, du pain, avec le pain chaud, avec lequel Aaron va entrer pour réaliser le culte au niveau de la sainteté. Et voilà que ce que nous avons là, c'est qu'il s'agit en réalité, c'est ruiné du moins. Au mérite de la circoncision, chez Nehemar Bar, tout de suite vous comprenez, circoncision du Kémy. Chez Nehemar Bar, à propos de laquelle il est dit, dans la Genèse, verset chapitre 17, verset 10, les autres vérités achètent chez Nehemar.
voici mon alliance que vous observez, que vous préservez, que vous préservez. Et donc, il y a un lien entre le niveau de sainteté auquel je vais accéder, le grand prêtre, et d'autre part, un lien avec la circoncision. Et ici, le mot brit, alliance, qui concerne cette disposition du culte, que le grand prêtre n'a pas le droit d'entrer au Kodesh HaKodashim sans cette brit, sans cette alliance, c'est de nier à l'alliance de la circoncision. Brit, brit. Qu'est-ce que c'est que cette alliance de la circoncision? Alors voilà l'explication générale.
Du Mahara, mais gardez les pages du brit. Même avant, je crois que ça peut être
décodé, si j'en ai ici. Il faut nous référer au récit de la création, où nous voyons que Dieu crée le monde, et puis l'organise pendant 6 jours,
et le 7e jour commence le temps de l'histoire de l'humanité. Adam Arichel, le premier homme, apparaît dans l'histoire, sortant du 6e jour pour entrer dans le 7e. Dès que l'homme entre dans le 7e jour du monde prend l'apparence déterminée de la nature. Pourquoi ? Pour que l'histoire de l'homme puisse commencer. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire du projet moral, il faut qu'il y ait liberté, et pour qu'il y ait liberté de l'homme, il faut qu'il y ait déterminisme du monde. Là, je schématise un séminaire que nous avons eu. Alors, vous voyez quel est le rythme de l'être créé pendant les 6 jours, je ne parlerai pas de c'est l'être de conscience magique. Mais l'accès à la modernité, comme nous le dirions nous en langage contemporain, se fait pour le premier homme dans l'entrée dans le 7e jour. Le 7e jour, Dieu fixe le fonctionnement du monde. Au niveau du déterminisme que la pensée humaine va pouvoir étudier, mais elle étudie le fonctionnement, le petit coup, comment dire ça en français, le manage de fonctionnement, le monde fonctionne, il est métaphèque. C'est un monde stabilisé dans ce que finalement la conscience humaniste va formuler dans cette catégorie du déterminisme. Mais c'est très différent de voir un déterminisme originel que de voir un déterminisme second qui donc peut être suspendu. Un déterminisme second peut être suspendu. Et par conséquent, dans ce rythme de pensée, si vous, le 7e et le 7e, c'est le temps de la nature, alors la notion de miracle est possible, qui ouvre la petite porte de l'incognito, on devine l'incognito du Créateur. Mais dans la relation au monde, qui est purement celle de 7, cette fenêtre ne s'ouvre pas. Cette fenêtre qui s'ouvre, c'est le 8e qui se laisse deviner. Et par conséquent, chaque relation au chiffre, au monde, lui, par rapport au rythme, est une relation à la transcendance de la volonté divine du Créateur, et donc pour nous, au 8e jour qui viendra après le 7e, et qui est le temps d'inquiétude. Bon. Je parle français, et ce n'est pas simple pour vous écrire ça. Je voudrais quand même dire un bon mot. Depuis quelques années, un peu partout paraissent des textes délirants qui font des analyses d'associations d'idées sur des notions de Torah, ou pas Torah, Kabbalah ou pas Kabbalah, enfin les mots en français recoupent des choses dont beaucoup plus psychiques que d'autres, et je dis les choses gentiment. Qui vous font des analyses numériques ou pas numériques, où est-ce que je dis ? Eh bien, alors faites bien attention. Nous avons étudié le Maharal. Le Maharal, c'est pas un petit gamin
d'aujourd'hui cherchant à faire un phénomène de librairie sur un sujet. Vous voyez
ce que je peux pas dire.
Eh bien, c'est le Maharal. Le Maharal dit, faites bien attention. Dans leur venant, les rites de la Torah, lorsqu'un rite se réfère à 7 jours, alors ça se réfère à la relation au monde déterminée, Dieu n'intervenant pas par Bénila, et nous sommes dans le temps de l'histoire, de ce qu'on appelle Aramasé, le temps de l'histoire, qui n'est que provisoire, bien que nécessaire, qui est le temps où le monde va prendre cette apparence absolue d'un déterminisme qui fonctionne par lui-même, pour que l'histoire se développe, et que la conscience morale puisse être libre et donc jugée sur ces options morales, ce qui nous mène à la fin du 7e jour, lorsque le 8e jour commence, c'est le temps messianique où la transcendance se révèle. Elle se révèle à travers le chiffre. Et c'est pourquoi nous dit le Maharal, premièrement, la circoncision. Pourquoi le Maharal va tout de suite citer la circoncision comme rite de l'Italie. Je suis vraiment à quel point Hanukkah est une fête messianique absolument. Pourquoi les Maccabées ont institué, et à partir de maintenant, la menorah de Hanukkah, c'est une pleine lumière, et plus Une petite parenthèse. C'est vrai que dans les synagogues traditionnelles, on ne met jamais un chandelier à 7 branches. Vous avez toujours des chandeliers à 8 branches, ou à 9 branches, ou à 6 branches. Vous avez remarqué ça. On fait dans une synagogue traditionnelle. Pourquoi ? Parce que nous avons une règle, et qui vaut aussi sur d'autres rues, qu'on ne refait pas, en dehors du temple, un des kélim.
par exemple, dans certaines communautés, et c'est un minage important, on ne prend pas d'agneau grillé le jour de Pessah. Pourquoi? Parce que ça pourrait faire ressembler au sacrifice de Pessah qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas le temps. Il y a certaines communautés, au contraire, ou d'accord, on prend de l'agneau grillé. Faites attention, chacun le rite de sa communauté. Parce que dans cette communauté-là, au contraire, on est très lucide qu'on sait très bien qu'on n'est pas en train de faire le sacrifice de Pessah, mais on peut quand même se rappeler. Ce sont des coutumes de famille qui sont devenues des coutumes de communauté. Comment les et par conséquent, sur la synagogue, vous trouvez un chandelier à 7 ans, vous n'avez pas mettre le feu à la synagogue. Peut-être pour d'autres raisons, mais je disais ça en face. Alors, pourquoi la science? Et alors là, c'est tout un thème très important, mais vous n'avez pas dans la rade. La horla, c'est-à-dire ce prépuce de la horla, je ne sais pas comment dire ça en français, je vais être c'est le signe du conditionnement physique absolu qui fait de l'homme comme un animal, en particulier au niveau du comportement de la douceur, de la nourriture et de la victimisme. Or, précisément, la circoncision, c'est le tikkun de l'être naturel de l'homme, au niveau corporel, et l'alliance de la circoncision est une alliance messianique qui met l'homme circoncis au niveau des gens, en relation des gens, avec le monde du vide. Il y a un thème que les savants contemporains, biologiques, psychologues, certains s'appliquent un peu à cela, mais à la manière des universitaires de l'histoire de la religion, qui nous ramène ça à des rites de genre société primitive, très bien attention à cela, les rites de castration, toute cette histoire-là, c'est vraiment extérieur à ce que le rivage enseigne à ce projet. Il s'agit d'une conduite rituelle qui va mettre l'homme le sortir du niveau 7, du niveau naturel, pour le mettre face à face avec son créateur. Comment ça fonctionne? Je peux revenir en bas, c'est ça de problèmes. Statistiques et phénomènes. Après tout, il y a un problème. Peut-être c'est relié aussi, au fait d'avoir été séquencé dans la médecine. Mais je vous donnerai simplement une j'ai dit statistique. Je vous donnerai simplement une indication sémantique. Le mot de circoncis, en hébreu, c'est dit moule. Moule. Qu'est-ce que ça veut dire moule en hébreu? Vis-à-vis, face à face. Bon, vous comprenez l'implication qui est très importante. Et là, vous m'avez dit, le langage de la sainteté n'est compris que par ceux qui sont secondes. Je vous raconter un ouvrage précisément à propos de l'honneur. Et ça va être la question de l'honneur. Nous étudions dans le Rambam, nous étudions les écoles mamrines. Et alors, on est arrivé à ce point, il est interdit, en étudiant hébreu, il est interdit d'enseigner la Torah au nom de alors, j'avais demandé, mais à son interdit. Non, il y avait un petit peu de vie, déjà. Et donc, c'est pas possible. Et puisque c'est pas possible, c'est interdit. Et donc, il y a la relation. À son interdit, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et encore une fois, dans ce problème, l'identification du modèle, c'est un problème de diagnostic. Il faut faire un chez l'acteur, je dis. Chacun, c'est un monde en soi. Mais la règle est ainsi. Et l'expérience, non, c'est pas possible. D'accord. On a essayé d'apprendre la relation. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Les acteurs. Et donc, il y a etc. Et alors, voilà ce qui se passe. Lorsque Joseph va se dévoiler à ses frères, va dire, je suis Joseph votre frère, allez le dire à mon père, et lui, okay, à d'accord. Et lui, le temps mécanique est arrivé. Alors il le dit comme ça. Enechem, oh, et Ene, Achim, Binyamin, chez lui, Hamdaber, avec vous. Savez, vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin, que c'est ma bouche qui vous parle, à lui dire que c'est bien moi. Voilà comment c'est formulé. Enechem, oh, je vais rassembler ici tout un archive très important et pour vous expliquer la manière suivante. Les certifications de requin du Rav Ashkenazi. Pas celui de Nice, c'est fait, mais de Nice. Et le Rav Ashkenazi, c'est le fils de Nice. Je m'en fais un et alors, voilà l'explication qu'il a fait. Rachid dit ceci. Vos yeux voient que je suis. Et les yeux de mon frère Benjamin, que je n'ai pas de haine. Voilà le raisonnement. De même que mon frère Benjamin n'était pas, lorsque vous m'avez fait mon procès, et donc je n'ai pas de haine pour lui, de même je n'ai pas de haine pour vous. Donc, premièrement, vos yeux voient que je suis défendu. Deuxièmement, et les yeux de mon frère Benjamin, que je n'ai pas de haine. Et ici, là, qui puis vous avez à l'effet, c'est la chose à cause, que je vous parle en laisse. Or, l'accusation que Joseph avait portée sur ses frères, c'est
c'était dans le début de notre conversation, dans le début de ma tête. C'était l'analysation globale de ces trois grandes choses. Que, il ne mangeait pas cachère, c'est Firudanim, c'est dans le sens de Benadam, la Radevo, pour Firudanim. Que, il prétendait les idolâtres, il n'y a plus les idolâtres. C'est, il ne va pas lâcher une coluche, et que le marché, ils vendent leurs produits aux femmes cananéennes, et que, ils ont à l'aïeul, ils sont là, ils sont comme des insectes. Et je vous ai dit, je m'attendais, mais je vais prendre les trois. Or, le principe, c'est que Joseph va être mis en jeu, en épreuve, sur les trois accusations qu'il a fait contre lui. Et ce sont les trois épreuves de la galoute. Les trois épreuves de la galoute, c'est de revenir, en faisant la peur, qu'on parle à Shana Kodesh, qu'on est circoncis, et qu'on n'a pas de haine.
C'est un thème pour lui-même.
Vous comprenez cela, qu'est-ce qui est mis en jeu. Alors, Joseph dit, le moment est venu, je peux vous dire, et que j'ai gardé ces trois valeurs. Vous voyez la relation entre celui qui est circoncis et celui qui est capable de la Torah. Or, comment le visionnaire, dans ces messages de Sifrachi, vos yeux voient sur ma figure que je suis. Il y a donc une relation entre moule et moule, panim et panim. Est-ce que c'est un peu chassidique, la manière dont j'ai formulé, mais je serais gênant dans le débat, c'est pas du tout. C'est clair. Il y a un lien très étroit dans ce fait-là que c'est Abraham qui est le premier homme de l'Alliance avec le Dieu unique créateur qui va fonder la conscience morale et la science. C'est-à-dire que la circoncision va nous mettre au niveau lui. C'est pourquoi le rite de la circoncision, c'est le week-end. Et vous savez que cette règle est très importante dans aussi d'autres mondes de l'histoire. Ce qu'on appelle le marché, mais c'est ceci. C'est qu'à moins que le cas de force majeur, la circoncision, et alors là, la circoncision peut se faire importante, c'est le cas de force majeur. En général, les moralistes savent que s'il y a la Vénus, ça peut être dangereux, et donc voilà la circoncision, mais à moins de cas de force majeur, si l'enfant est en bonne santé, la circoncision à 8 jours ne ressemble pas à la circoncision à 9 jours. Et tant qu'à lorsque tu fais à 8 jours, elle a un farm important. Et tout ça parce que normalement, les filles viennent à la circoncision, viennent aussi inviter leurs amis, en général, ça va d'abord le faire le 8e jour de la semaine de tout. On peut très bien faire la circoncision du jour du chevaux, faire la réception de le dimanche, ça c'est pas un problème. On peut même faire la réception cachère, après tout, pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que nous avons là un vrai résultat. C'est que le rite, au niveau du juif, c'est ce qui fait du juif, dans le sens strict, un homme surnaturel. Et ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas dans le monde du 7e jour, bien sûr, il vit dans le monde du 7e jour. Il est relié au monde, au niveau du chrétien, il est déjà donné, quand l'Israël est quand même très dans il est déjà donné au chrétien. C'est ça que montre. Donc, voilà le mot de et donc le malade va nous expliquer ça. Et il m'a quasiment diagnostiqué qu'il y avait là une intervention de salut en au-delà des forces naturelles. C'est-à-dire, les Grecs ont voulu ramener l'indice 8 d'Israël à l'indice 7. Et c'est précisément là où le conflit était le plus grave, parce que si ça avait disparu, la lumière disparaît du monde entier. Le malade, ça nous a expliqué dans les premiers cours, il n'y aurait pas eu d'espérance de salut dans le monde, si cette identité hébraïque avait été éliminée. Et alors, qui a expliqué ça autrement à un Shabbat, bien sûr nous savons que ce n'est pas possible puisqu'il y a une alliance. Mais à quel prix? Et chaque fois que nous vivons l'épreuve, c'est comme si ça allait arriver. Quoi, j'ai donné la référence de cette épidémie-là, en premier, et cette épidémie-là n'a pas eu lieu. Mais jusqu'à ce qu'il n'ait pas lieu, tout se passe comme s'il allait avoir lieu. Et lorsque nous vivons l'épreuve, elle est totale. Mais nous savons parfois qu'il n'y aura qu'une issue, que ce n'est pas tragique, que c'est dramatique plus.
Mais que ce n'est pas
tragique, et à quel prix? Mais je voudrais quand même ajouter. Ça pourrait être suffisant, trop, tellement contrôlant, qu'à l'échelle individuelle, on va se dire, bon, Shalom à l'anarchie, que le cloud s'en occupe. Puisque l'alliance est avec la collectivité d'Israël, que la collectivité d'Israël s'en occupe, il y aura toujours quelqu'un pour faire un temps de travail. Non, non, faites attention à ça. L'alliance est inconditionnelle pour la collectivité.
Mais pour que chacun d'entre nous participe de cette collectivité, il faut que chacun d'entre nous le fasse. Par exemple, dans la confiance de la venue du 8e jour qui nous viendra de Mashiach, eh bien, dans cette confiance, il y a à la fois certitude absolue et incertitude absolue. Où? Comment? Certitude absolue que ça arrivera pour Israël. Mais incertitude absolue si ça arrivera pour moi en Israël. Vous voyez le ça se dit pas, à l'échelle humaine, nous ne pouvons pas savoir. Dieu seul connaît, en quel plan il aurait, Dieu seul connaît qui est qui. Peut-être que quelqu'un, apparemment, apparaîtrait comme ne le méritant pas, méritera quand même, parce qu'il est le quelqu'un fils de cette lumière d'année. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne pouvons pas savoir qui est qui. Il faudrait plonger dans l'inconscient de chacun jusqu'au premier.
Et ça, c'est en dehors de notre vie. Mais la dialectique, l'inquiétude reste à même. La foi est une inquiétude absolue et en même temps une inquiétude absolue. Parce que, inquiétude absolue que ça arrivera, mais est-ce que ça me concernera? Et alors, bon, chacun est un niveau différent de ce dosage.
Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie de l'onction? par la Meshicha, et qui est, d'une certaine manière, un rite de ordination, de légitimation. Le candidat à être en prêtre, il peut y en avoir plusieurs, tous se sont légitimes que l'autre, par exemple. Au niveau, ils se trouvent tous ces candidats, à la présence de l'être d'abord, dans la réalité, qui va voir la différence. Le prophète décide parmi tous aussi, c'est lui. Alors, c'est la cérémonie de l'onction. C'est le Kohen, le Melech, légitimisé par la cérémonie de l'onction. Et Mashiach vient du verbe qui veut dire Oin. C'est littéralement en français, les Oin. Sachez que chaque tribu a son Mashiach. Il y a Mashiach ben Ephraim, Mashiach ben Yehuda, il y a Mashiach ben Benjamin. Il y a le Kohen de Mashiach. La mythologie occidentale a fait de ce mot ici une espèce de monstre. Mais ça veut dire que dans chaque génération, bien que pas le voilé, ça c'est la dernière enseignement religieux que vous avez aujourd'hui, chaque génération a son Mashiach, mais il n'est pas le voilé. C'est moi qui fonctionne. C'est celui qui est parmi tous les candidats possibles à la fonction d'être le chef de la communauté d'Israël, au niveau sacerdotal et au niveau politique, c'est celui qui est reconnu comme étant la figure de proue. Mais cette reconnaissance doit venir d'en haut, alors que la candidature vient d'en bas et a sa propre légitimité.
Est-ce que c'est évidemment le cas? Oui, les familles de famille de chaque
c'est une autre catégorie de famille de c'est une autre catégorie, c'est celui qui est capable d'être maire et celui qui est capable d'être corps. Mais le Kohen nous a été dévoilé. Mais le machin de Melech nous a été dévoilé. Mais pour voir qu'il y a une famille, vous savez que à l'homme qui nous décolle au Ishmaou, eh bien, il se dévoile difficilement. Mais je voudrais revenir sur ce point. Au bout de 2000 ans d'exil, nous avons fait la peur
que nous sommes pas des idolâtres et qu'on n'a pas de vraie image. Qu'est-ce que nous avons là-dessus là?
Nous vivons dans le ciel. Mais nous n'avons pas de vraie image. Ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'image. Si c'est une image importante, je vais vous dire.
Il y a
une vision de la tefila de Jean-Marie Lonto dans le Yoté. Epes l'Utefa Goalemou du Mont Amashia. Epes l'Utefa Goalemou du Mont Amashia. Ça veut dire rien d'autre que toi, notre libérateur, Dieu, au temps du Messie, aujourd'hui. Mais c'est le Messie. Alors il y a le Messie produit de Dieu, personne d'autre que toi. Rien d'autre que toi aujourd'hui. Et le Messie, donc, Epes, nous n'avons pas besoin d'image. La réalité, c'est que ça fonctionne. C'est les idolâtres qui ont besoin d'une métaphore, qui ont besoin d'une image.
Est-ce que c'est clair ce que je veux dire?
C'est très important de bien réfléchir à ça. Parce qu'il y a énormément de gens que leurs pieds les empêchent à aller chez eux parce qu'ils n'ont pas vu l'image. Mais ils ne sont pas des idolâtres. C'est-à-dire, c'est clair? Bon, soit.
Il faut plus de conclusion. Toute cette argumentation qui vous convainc, il faudrait quand même qu'elle s'applique, parce que demain on l'aura oublié. Parlez-vous une fois. Pour le mètre carré, l'autre a une qualité. C'est lui de dépenser qui m'a paru brillant. C'est lui qui fait le mètre carré, après il m'a pas paru. C'est celui qui a pensé passer au-dessus de la tête.
Mais écoutez, le père carré, vous rappelez un souvenir de jeunesse dans de préhistoire, c'est avant à lire. Le père carré avait préparé un texte écrit, il l'a lu, tout simplement dans la support. Maintenant, ce qui s'est passé dans son âme ce soir-là, c'est son affaire. Comment je vais vous dire que c'était des intellectuels catholiques,
oui.
Ben, ils ont écouté un livre où ils ont mis ma communication avec un courage extraordinaire. Et c'est d'ailleurs bien rédigé, c'est pas moi qui l'ai rédigé, j'ai pris sur cassette, et je me l'ai dit. De même que, quand je faisais des communications au colloque du CJM, je ne voyais jamais le texte. De la même manière pour vous, écoutez, je vous ai dit ce que je vous ai dit, faites le compte-rendu comme vous voulez. Et puis, comme il n'y avait pas d'orthographe, j'ai signé. Mais j'ai envoyé qu'ils ont eu un courage extraordinaire. Et ce livre est étudié par énormément de docteurs en théologie qui font des thèses là-dessus, de la suite de manuscrits.